Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être présentés à cette rencontre avec France Théoret. Une rencontre qui est intitulée France Théoret, une écrivaine féministe, et qui porte sur son dernier livre intitulé Une belle éducation. Je vais me permettre de la présenter. Il y a plusieurs choses à dire pour retracer le parcours de France Théoret. Ensuite, elle a la grande gentillesse de nous lire un extrait justement tiré d'Une belle éducation, un passage assez bref. Ensuite, on va embarquer dans notre discussion qui risque d'être assez, comment je pourrais dire, fournie ou touffue. On a déjà discuté un petit peu, puis je crois qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de matière pour nous, mais également pour vous, ce qui fait qu'on va clore la rencontre de ce soir avec une période de questions. N'hésitez pas donc à rassembler vos idées pendant notre discussion à nous. Il va nous faire plaisir de l'ouvrir vers la fin de la rencontre. Alors donc, je vous présente sans plus tarder France Théoret, qui a obtenu son doctorat en études françaises de l'Université de Sherbrooke, qui a participé activement aux activités de la Barre du jour. Elle a du reste été membre du comité de rédaction de 1967 à 1969. Elle est une des auteurs de La Nef des sorcières, qui a été publiée en 1976, une pièce de théâtre collective et féministe. Elle a, à peu près la même année, été cofondatrice du journal féministe Les Têtes de Pioche, donc en 1976 toujours, et quelques années plus tard, en 1979, cofondatrice cette fois-ci du magazine culturel Spirale, dont elle a été la directrice de 1981 à 1985. Elle contribue d'ailleurs toujours au magazine maintenant. Elle a participé au très important collectif féministe La Théorie un dimanche, publié en 1989. En plus de tous les textes qu'elle a publiés, elle a participé à de nombreux colloques, donné plusieurs conférences partout dans le monde. Elle a été écrivaine en résidence à l'UQAM en 1995 et 1996. J'ai déjà d'ailleurs eu l'honneur de vous rencontrer dans un cours. J'étais étudiante au bac à cette époque. Vous avez longtemps enseigné au niveau collégial. Se consacre maintenant à l'écriture à temps plein. Elle est poète, essayiste, dramaturge et romancière tout à la fois. Elle a entre autres publié, et là ce n'est qu'un bref échantillon de toute sa bibliographie, Bloody Mary, un recueil de poèmes en 1979, nécessairement plus tard, un an plus tard, en 80. Nous parlerons comme on écrit en 82. C'est votre premier roman, moi que je ne m'abuse. Entre raison et déraison, une collection d'essais en 1987, L'homme qui peignait Staline en 89, Journal pour mémoire en 93, et Les apparatchiks vont à la mer Noire en 2004. Son dernier roman, comme je vous l'ai déjà annoncé, s'intitule Une belle éducation, qui a été publié en 2006 et il fera donc aujourd'hui l'objet de notre rencontre. Je vous cède donc sans plus tarder la parole pour écouter un extrait tiré d'Une belle éducation.
Bonsoir, je vais vous lire un passage, je dirais... qui n'est pas noir, dans Une belle éducation. J'ai enlevé pour de bon manteau d'hiver, passe-montagne, gants de laine et bottes. Les vacances de Pâques terminées, le soleil a pris une vigueur nouvelle. Je renais. Une fin d'après-midi, je sors de l'école d'un pas rapide et souple. Un sentiment heureux m'accompagne jusqu'au tramway que je prends en direction de la rue Vinet. Je suis debout. Tout disparaît autour de moi, à l'exception du mouvement et des bruits familiers sur les rails d'acier. Bientôt, les bruits familiers sont inaudibles. J'entends ma voix intérieure de manière limpide. Les mots « je sais que je ne sais rien » sont prononcés plusieurs fois. Une voix parle en moi qui n'est pas celle de ma conscience religieuse, de ma vie introspective en quête des fautes quotidiennes. Ce qui parle en moi est une voix inconnue, la voix appelle le dialogue. Je suis accompagnée par la présence d'une voix qui demande une écoute. Il y a la révélation d'un dialogue inédit qui se produit avec la force de l'évidence. Le moment est gai. J'entends la phrase qui est une invitation à quitter mon ignorance. Je sais que je ne sais rien. Cette expression m'est inconnue. Sa formulation claire et réitérée naît de la voix intérieure qui me parle. Je quitte le monde de l'enfance, mon goût de vivre, cet instinct assailli et tourmenté de mille manières m'a déjà ouverte à des formes de beauté. J'ai connu certains moments exceptionnels, des minutes ravies à l'existence quotidienne, moments fixés à jamais, immobiles. La voix ne me propose ni la beauté, ni l'extase, ni l'immobilité. Elle appelle le mouvement. J'en prends conscience au même instant. J'ai un avenir qui se fondera sur l'étude et le savoir. Tout ce qui vient de se passer pendant ce quart d'heure a la puissance d'une révélation. J'éprouve une joie tranquille. Je vais apprendre. Je continuerai mes études. Il n'y a aucune direction annoncée. Je reconnais que je suis une ignorante. Je quitterai l'ignorance. Ce n'est pas ésotérique. Je ne suis la proie d'aucune influence, d'aucune religion, d'aucun préjugé. Cela m'appartient. Le désir de connaissance naît avec le surgissement de ma voix intérieure. Je comprends dans l'instant immédiat qu'il ne s'agit pas de l'introspection religieuse qui brandit les tares, les manques, les désolations devant mes défaillances et mes défauts. Une gaieté incomparable accompagne ce qu'il faut appeler ma découverte, une gaieté souveraine qui n'a aucun revers, qui ne se transforme pas en tristesse. Cela a été une joie singulière. J'ai déjà la réputation d'une fille studieuse et trop sérieuse qui refuse de rire tant qu'il est entendu qu'un esprit réfléchi ne s'amuse pas, que l'un exclut l'autre sans retour. Ce que je viens de comprendre me libère d'une grande tension. J'ai l'intuition, j'accède par moi-même à une autre façon de penser. Il existe d'autres mondes et des pensées différentes de celles que j'apprends. Mon avenir se dessine, j'en ai le pressentiment, je m'apaise, je découvre ce qu'est une vie personnelle. Cela n'a rien à voir avec un secret. Une existence à soi comprend la découverte du dialogue intérieur en vue d'un avenir individuel. Le réconfort naît de mon dialogue, même lorsque je me retiens de parler à haute voix dans les rues.
Merci beaucoup, Madame Théoret. C'est en effet un passage très lumineux par rapport à l'ensemble de ce roman-là, qui est si pas noir, en tout cas, à certains moments, je me risquerais à dire accablant, à certains moments. En fait, pour faire un résumé très bref, il s'agit en fait de retracer l'enfance et l'adolescence de la narratrice protagoniste qui s'appelle Evelyne, qui grandit dans une famille de classe ouvrière et qui va justement, par le savoir et par la culture, être en mesure de jeter un regard sur cette belle éducation qu'on lui donne tant dans sa famille qu'à l'école, qui est une éducation religieuse à la maison, une éducation, on y reviendra, très patriarcale à la maison. Donc, ce savoir-là détaché, finalement, je ne vais pas dire du réel, mais en tout cas, qui lui ouvre des portes, qui lui permet en tout cas de se détacher de ce réel-là, de son existence par la connaissance, le savoir, l'abstraction que peut représenter les idées par rapport à son quotidien qui est parfois justement plutôt accablant. Est-ce que vous pensez que c'est injuste quand je dis que c'est un roman qui est souvent accablant?
Il n'a pas été accablant à écrire.
Oh non, mais...
Il peut faire cet effet, ça je peux le comprendre. C'est un roman noir. Mm-hmm. C'est un roman noir, c'est un roman sur la négativité. Mm-hmm. C'est un... qui parle de... Enfin, de je n'emploie jamais le mot pessimiste, ça n'est pas dans mon registre de langage, mais c'est une vision... C'est une vision noire. Oui, c'est le mot qui me convient. Oui. C'est un roman qui est partiellement autobiographique. Okay. Partiellement autobiographique. Je dis partiellement parce que l'ensemble, la plus grande partie du roman se passe sur un an et demi. Donc, Evelyne a 13 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Et je l'ai axé, ce roman, sur la quête la quête du savoir plutôt. Et si j'avais vraiment fait un roman autobiographique, il aurait été très, très important pour moi que je touche la question sexuelle. Elle est touchée ici par le biais de la question de l'éducation patriarcale, mais si j'avais décidé au point de départ d'écrire un roman totalement autobiographique, les fantasmes sexuels auraient été extrêmement importants. Pourquoi je n'y ai pas pensé, je peux dire cela. Je peux dire aussi que il y avait. Je voulais encore une fois toucher la question du savoir. La question du savoir parce que c'est une quête. C'est une quête qui peut être ardue, difficile, longue, exaspérante. Bon, voilà.
Il me semble qu'en partie, cette quête de la connaissance qui oriente votre roman autobiographique, on pourra peut-être élaborer la question qui me semble importante. Mais avant de le faire, il me semble que la question du style s'impose dans la mesure où la quête de savoir que va entreprendre, entre autres à partir de ce moment lumineux où la jeune fille a envie d'apprendre parce qu'elle découvre que justement elle ne sait rien, que ça ouvre tout un monde de possibles, qui ne correspond pas du tout au monde qu'elle connaît. Cette quête de savoir-là, donc, cherche, pas forcément cherche, mais va éventuellement provoquer, va être une manière d'échapper à la pauvreté de son milieu. Puis quand je dis pauvreté, je ne parle pas d'une pauvreté matérielle, même si elle est là, mais d'une pauvreté du point de vue, justement, des connaissances, des possibilités qu'une vie peut apporter, d'une manière d'échapper au destin?
Je vais répondre à ça très brièvement. Le savoir peut être une arme.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Une arme défensive. Et les femmes n'ont jamais trop d'armes défensives.
Pourtant, cette pauvreté-là, ça peut être étonnant, mais quand on connaît l'ensemble de votre œuvre, ça ne l'est pas. C'est une constante... Il semblerait que cette insistance sur l'importance de savoir, de connaître, se traduit pas forcément dans votre style qui est excessivement épuré, qui consiste selon moi en un refus du lyrisme, une économie de moyens, une simplicité qui n'enlève absolument rien à la force des propos, à la pertinence des propos, à la qualité de la formulation, mais qui refuse, qui cherche la pauvreté.
Je cherche quelque chose d'humble, mm-hmm. de pauvre. Mm-hmm. Bon, d'accord. Il y a une chose, j'ai donné beaucoup d'ateliers littéraires et il y a une chose que je m'applique à moi-même, mais bien sûr, c'est que toute écriture est transformation du langage. Alors, je n'accepterai jamais d'écrire comme du langage parlé. Mm-hmm. Il me faut toujours un écart. Un écart entre le langage parlé et on ne parle pas comme c'est écrit dans mon roman. C'est il y a tout le rythme, il y a ce travail de synthèse. Les choses sont toujours dites très rapidement. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a jamais de pourquoi. Il n'y a jamais de comment. Il n'y a jamais de. J'essaie de ciseler les choses, mm-hmm. mais ça, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais pour tourner la chose, que ça me touche. Et en fait, ce que je crois, mais c'est une vieille notion pour moi, c'est une notion qui a peut-être 25 ans, j'aimerais que l'écriture soit toujours tangible, sensible, mm-hmm. une écriture du corps. Mm-hmm. Et donc, dans ce texte, j'établis toujours un écart avec le langage parlé. On ne parle pas avec cette simplicité-là, au risque même d'avoir l'air peut-être simpliste ou pire encore. Donc c'est un travail du langage que j'ai recherché de cette façon. Et ce qui m'étonne toujours dans l'écriture, c'est que la voix change. Ma voix change et je n'ai pas de voix stable. Tant mieux pour les hommes y arrivent très souvent, mais les femmes y arrivent pas toujours. Et je n'ai pas de voix stable de livre en livre. Et ça fait partie. Il y a à chaque fois quelque chose de l'ordre du langage qui s'oppose, mais je crois que là, dans ce texte-là, je suis probablement allée le plus loin parce que le sujet même, c'était il était question de parler d'une jeune adolescente qui réfléchit encore un peu comme font les enfants à cet âge-là. D'ailleurs, bon, il y en a qui restent toute leur vie comme ça, mais elle est obligée de passer à une autre phase, c'est-à-dire qu'il lui arrive quelque chose et le lendemain, elle oublie. Bon, un peu comme les enfants, ils peuvent pardonner beaucoup de choses parce que le lendemain, ils ont oublié, puis enfin, il y a des adultes qui agissent toute leur vie comme des enfants, ça vous le savez. Mais à un moment donné, étant donné qu'elle se donne comme défi, nécessité, cette quête du savoir, ben elle doit faire en sorte qu'elle ajoute une chose à une autre chose, à une autre chose. Elle doit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que son expérience. Et bon, ben, enfin, heureusement, il y a beaucoup de gens qui le font, mais il y en a qui commencent plus jeunes, d'autres moins jeunes. Mais c'est peut-être la seule chose au niveau psychologique que j'ai essayé de comprendre pour l'écriture, mais autrement, tout ce qui se passe, il n'y a pas de dans l'écriture non plus. L'écriture ne passe pas de jugement. Mm-hmm. Les choses sont dites, et on peut passer à travers ce roman-là très rapidement, mais on peut aussi se demander, oh là là, il y a telle chose qui se passe, c'est assez misérable cette histoire-là, pas nécessairement, j'entends pas exactement matériellement, mais psychologiquement, mais les questions ne sont pas posées. Les questions, c'est au lecteur ou à la lectrice de se poser la question, est-ce que c'est possible que des gens vivent comme ça? Est-ce que c'est possible qu'on pense comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça? Parce que, voilà, ça fait partie aussi de l'écriture. Une autre chose aussi que je crois à propos de l'écriture, c'est qu'il y a 1000 choses nécessaires pour écrire une seule phrase, comme dit Virginia Woolf. Alors, il y a beaucoup de choses qui concernent évidemment le rythme, le choix des mots, l'articulation. Il y a aussi des choses, disons que dans ce roman, c'est peut-être dans celui dans lequel j'ai peut-être fait le moins de travail. Mais le travail au niveau formel, il est là dans le type de phrase. Il est là dans le type de phrase qui s'éloigne du langage parlé. Écoutez, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un un roman journalistique, un langage qui parle comme on écrit. Ça en est plein dans les librairies. Bon, alors, écoutez, ça, c'est même pas une critique que je fais, c'est une chose que je vois continuellement. Alors, ici, ce que j'ai tenté de faire, c'est un petit peu... un montage, c'est un terme aussi que j'emploie beaucoup quand je travaille. Je travaille à la manière d'un montage. Je n'écris pas le roman. Je n'écris pas le roman. Ça aussi, c'est un secret d'atelier. Je n'écris pas le roman de A jusqu'à Z. J'écris des moments de tension, j'écris des grands moments, et puis un moment, il se passe que, bon, évidemment, il y a beaucoup de travail, de liaison, et donc que je dois faire à un moment donné pour que texte veut dire tissu, alors vous savez tout ça, donc il ne faut pas qu'il y ait d'accro dans le tissu. Donc, mais je ne travaille vraiment pas... Je le travaille vraiment pas, disons, en partant du point A au point Z. Alors, c'est encore au niveau du langage, qu'est-ce qu'on peut dire sur la... C'est ça, en fait, c'est le type de phrase que j'ai choisi à cause de la jeune fille adolescente. Je ne suis pas tellement partisane du fait qu'on montre les enfants, je n'en fais pas une loi non plus, mais qu'on montre les enfants comme étant, raisonnant comme des adultes. Il y a des heurts chez ce personnage, et c'est des heurts qui sont liés justement à une évolution. Mais en même temps, je n'entre pas dans la psychologie du personnage. Je reste à la surface. Je reste à la surface. Je n'entre dans aucune... jusqu'ici, dans aucun de mes romans, je suis rentrée dans la psychologie du personnage. Pourquoi? Pour moi, c'est typiquement dans le roman traditionnel, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qui m'arrive pour que je rentre dans la psychologie du personnage, c'est-à-dire expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'entrer dans la psychologie du personnage? C'est expliquer les sentiments, expliquer les pourquoi, les comment, les raisonnements, faire des liens. Je donne les choses ici, il faut le dire, d'une manière assez brute, assez naïve, mais enfin pour... c'est comme ça, parce que c'était une quête qui s'est avérée très difficile. La quête est très solitaire aussi. Et je ne pense pas que dans la psychologie, 13 ans et 14 ans soient vraiment... ce soit la caractéristique des 13 ou 14 ans d'être des personnages solitaires. Donc, il a fallu que... Enfin, fallu entrer là-dedans, et donc dans une logique du silence, de la solitude.
Mais le style, votre style dépouillé, il me semble, je vais revenir à quelque chose que vous avez dit plus tôt sur l'obligation qu'a le lecteur, parce que justement, on reste à la surface, on tombe pas dans la psychologie de personnage, et donc ça laisse au lecteur beaucoup de travail, et donc il n'y a pas le choix d'investir le texte s'il veut bien comprendre les enjeux... et puis toutes les implications qu'a cette existence-là, qui est racontée d'une manière qui, dans ses apparences, semble simple alors qu'elle ne l'est pas. Puis ce style-là, justement, qui me semble dépouillé et qui fait dans l'économie, ça permet d'une part, donc, à votre narratrice de se désengager, de ne pas jamais, justement, poser de jugement ou critiquer ses parents, sa belle éducation, que ce soit à l'école ou surtout familiale, mais ça force le lecteur à s'engager, ce qui fait que ça force quand même un engagement, mais pas, je ne veux pas dire jamais celui de la narratrice, mais rarement celui de la narratrice qui justement, prend jamais le risque se prononcer sur cette situation. Puis il me semble que ce style-là permet d'appeler le lecteur.
C'est ce que je souhaite. Bien sûr que c'est ce
c'est
que je souhaite.
C'est pour ça que j'ai trouvé ça accablant, justement. C'est loin d'être une mauvaise chose. Au contraire, je me suis sentie complètement happée. Puis pas prise d'une envie de parler pour elle, mais prise d'une envie de comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est jamais explicité. C'est dit, mais jamais explicité.
C'est dit, jamais explicité. Par exemple, ce que je considère la scène centrale du roman, et ce sont toujours des scènes très courtes, des images. Ce que je considère la scène centrale, c'est la scène où un après-midi, au début de l'après-midi du mois de mai, elle est dans la cuisine et Evelyne fait sa version latine. Elle travaille sa version latine. Elle a 14 ans. Alors, son père, qui vient de se lever, là, par hasard, tout le monde de la famille est parti, vient de se lever, il approche sa fille et puis, bon, elle est très mal à l'aise parce qu'il ne s'approche jamais dans la famille, il ne se dit jamais bonjour, bonsoir. Ce sont aussi beaucoup de petites choses comme ça qui sont racontées. Et comme c'est un fumeur, qu'il est obèse, il a un souffle terrible, même quand il s'approche d'elle. Il n'y a jamais de geste de tendresse entre eux, entre personnes d'ailleurs dans la famille. Et il regarde et lui demande ce qu'elle fait. Elle dit, je fais ma version latine. Et alors, là, il commence à hurler après elle. Il dit, tu n'es pas un prêtre. Tu ne vas pas devenir un prêtre. Mais c'est quand même très grave parce que c'est symboliquement... Il lui dit, t'es pas un homme. Puis pas seulement ça, il lui dit pas, t'es pas un garçon manqué ou quelque chose comme ça, ce qui était assez habituel dans ces époques-là. Non, il lui dit, t'es pas un homme, t'es pas un prêtre. Un prêtre, c'est un faux homme. Parce qu'à cette époque-là, les prêtres portaient la soutane. Hein? Les prêtres portaient la soutane, les sœurs portaient les grandes robes noires. Et alors, il lui dit, t'es même pas un homme, t'es un faux homme. Et si je prends ça avec ma culture d'aujourd'hui, comme on sait qu'il y a beaucoup de prêtres qui étaient pédophiles, pourquoi ils ne me prendraient pas pour une pédophile aussi? Je ne sais pas, c'est tout ça va ensemble. C'est très chargé idéologiquement, cette chose de prendre sa fille pour un homme et un faux homme. Donc, c'est une scène qui n'est pas du tout commentée. Mm-hmm. C'est une scène qui, évidemment, on va dire, il ne la bat pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, mais c'est la scène qui, ça suit deux, trois pages après cette révélation, hein, de « je sais que je ne sais rien ». Alors, c'est une scène très violente psychologiquement, finalement.
Mais ce qui est de très violent aussi, c'est cette... comment je pourrais dire? Cette impossibilité de coïncidence entre les paroles du père, la langue qui appartient à l'univers du père, puis au latin, qui est la langue de la connaissance, qui est donc évidemment associée au masculin, mais associée aussi à une autre classe. Et alors qu'elle tire un tel plaisir à faire ses devoirs de latin, puis qu'elle en est privée quand elle doit vraiment se mettre à entretenir la maison, etc., elle n'a plus le temps pour faire ses devoirs de latin. Donc, on est plutôt du côté, encore une fois, lumineux du savoir et tout, alors qu'elle va dire dans cette scène-là, elle va conclure cette scène-là avec le père, par les phrases de mon père m'ont bouleversée, alors que là, elle est devant un texte qui lui apporte un plaisir énorme, une satisfaction, etc.
Il faut quand même pas exagérer. Les devoirs scolaires n'apportent pas toujours des
mais,
plaisirs
mais
énormes et des satisfactions.
Mais elle a une vraie fierté à étudier le latin.
Il faut quand même relativiser.
Oui, mais...
L'amour de l'école, il n'est pas là en compensation de ce qu'il n'y a pas dans la famille.
Mais il me semble qu'elle tient une véritable fierté à commencer des cours de géométrie et de latin, puis que ça signifie un passage...
Ça signifie enfin que on lui a dit que c'était l'option la plus forte. Mm-hmm. Donc si elle réussissait ça, bien c'était qu'elle était une étudiante forte et que bon elle habite quand même le Québec et puis l'Amérique du Nord et pour elle avoir des bonnes notes c'est l'équivalent d'avoir un bon rendement. Mm-hmm. Donc ça aussi ça compte. Donc, l'investissement personnel et libidinal se fait en fonction de ça aussi.
Ouais. Dites-moi, j'aimerais qu'on revienne au fait qu'on a bien et bien affaire à un roman autobiographique. Puis vous avez, ce n'est évidemment pas innocent, mais vous mettez l'épigraphe du roman. C'est une situation oui, qui est très belle et Dieu sait très bien choisie aussi. Une situation empruntée à William Faulkner qui se lit comme suit. « The past is never dead. It's not even past. » Et pour une écrivaine qui entreprend un projet autobiographique, bien que romancé, c'est un acte de foi que vous faites, ou en tout cas, vous êtes en train d'annoncer un certain rapport à la mémoire et au passé. Puis je me demandais, est-ce que c'est possible, dans le cadre, en tout cas, d'un roman autobiographique... Puis, en plus, le roman est écrit au présent. On ne sait pas si la narratrice parle de son passé au présent ou si on est constamment dans le présent de la narratrice qui grandit sous nos yeux, etc.
Le présent de la narration, oui.
Mais c'est ça, mais ça reste quand même assez obscur pour le lecteur qui ne peut pas vraiment se décider par rapport à la position qu'a la narratrice au moment où elle raconte son histoire. Est-ce qu'elle la raconte au moment où, justement... Est-ce que le temps de l'énoncé coïncide avec le temps de l'énonciation, disons, ou si elle raconte... plus tard, et donc le présent et le passé, le passé qui est annoncé en exergue et le présent auquel le lecteur est constamment confronté dans le bouquin m'a fait me demander si c'est possible de jamais parler du passé au passé ou si le passé, pour vous, on ne peut qu'en parler au présent, justement.
Oui, le passé, on ne peut qu'en parler au présent, oui. Vous savez pourquoi je l'ai mis en anglais? C'est que j'ai... heureusement, j'ai un ami chercheur et qui a fouillé et a trouvé trois traductions différentes et qui donnaient trois nuances différentes. Alors, j'ai pas, il a dit, il ne faut pas faire ça. Hein? C'est quelqu'un d'un peu rigoureux, il ne faut pas faire ça. Il faut le mettre en anglais. Et bon, c'est ça. Le passé n'est pas passé. Le passé n'est pas passé. Et quand je fais des associations entre... homme, prêtre, pédophile, c'est voilà. Je ne connaissais même pas le mot pédophile à 14 ans, c'est sûr. Bon, et je le fais maintenant.
Mais pourquoi le pas? Pouvez-vous expliciter cette affirmation qui est, ma foi, assez risquée, que le passé n'est jamais passé? En quels termes est-ce que ça joue dans le roman, mais aussi par rapport votre rapport à la mémoire? Est-ce que c'est une impossibilité de vraiment, comment je pourrais dire, se distancer du propos? Est-ce que c'est que la mémoire, évidemment, bon, d'un point de vue psychanalytique, on sait que l'inconscient est toujours dans un présent perpétuel, mais même si on n'embarque pas sur cette voie-là...
La mémoire est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est extrêmement important et j'ai déjà écrit quelque part, tous les jours, je me raconte ma vie. La vie est faite pour être racontée. Il y a des choses merveilleuses que j'ai lues dans Hannah Arendt là-dessus. Je crois que il y a d'autres écrivains, écrivaines pour qui justement les choses. Ah oui, c'est ça aussi. C'est que les choses peuvent être rendues acceptables. Il y a des choses qui ne le seront jamais. Bon, la Shoah, par exemple, ce ne sera jamais acceptable. Mais il y a des choses qui peuvent être rendues acceptables, comme par exemple, quand le personnage à 25 ans dit « Je ne suis pas une victime ». D'accord? Alors, ma mère est une victime, mais moi, je ne suis pas une victime. Et ce n'est pas parce qu'elle a réussi, le personnage. Hein? Elle est un personnage complètement humilié, qu'on a fait travailler, qu'on a gardé pour qui... enfin, qui n'a pas mangé très souvent. Et bon, alors... Mais elle dit, je ne suis pas une victime. Et donc, il y a... Le fait de raconter des choses difficiles, des choses d'ordre existentiel... est difficile, le fait de les raconter les rachète d'une certaine manière. Leur donne une vie autre. Les rend acceptables. Bon, j'irai pas plus loin parce que, bon, c'est ça pour moi, la mémoire, c'est ça. Aussi, quand quelqu'un, pour se recomposer, je vais rentrer un peu dans une psychologie là, mais c'est une grande psychologie quand même. Pour se recomposer, on se recompose avec sa mémoire. Mm-hmm. On se recompose avec sa mémoire et j'ai toujours été assez horrifiée par les gens qui, et il y en a énormément, qui rejettent complètement leur passé, leur mémoire et bon. Vous savez, au Québec, on le dit souvent, on rejette la mémoire. Mais même une mémoire difficile elle devient autre chose par l'acte de raconter. Il y a d'autres femmes qui ont parlé de ça avant moi. Heureusement, elles m'ont réconfortée.
Mais vous avez parlé au tout début de la rencontre du fait que vous jugez que c'est un roman noir qui traite de la négativité ou qui est habité par la négativité. Oui, justement, il me semble que il y a une certaine... Et bien entendu, je ne parle pas de manière... je ne dis pas que c'est une résolution complète, mais il y a une certaine résolution, il me semble, de la narratrice par rapport à la négativité, dans la mesure où, en adolescente, elle va absolument... rejeter la négativité alors que, donc comme personnage, comme adolescente, elle rejette la négativité. Je vais lire un passage pour illustrer ce que je dis. Rejette la négativité que va incarner pour elle sa mère, mais quand vient le temps de devenir narratrice, de rendre compte de son histoire, mm-hmm. de prendre la parole, il me semble qu'elle n'a pas peur de dire la négativité. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a une résolution par rapport à la crainte qu'inspire chez elle la négativité, qui va entre autres impliquer la folie de la mère, etc. Mais il me semble que de son passage d'adolescente, de personnage à narratrice, donc dans la prise de parole, il y a une volonté de dire cette négativité-là qu'elle essaie constamment d'éviter dans sa vie. Bon, je vous lis le passage. Cela est au-dessus de mes capacités d'exprimer le... Elle parle de quand elle écrit ses lettres à une de ses copines. Cela est au-dessus de mes capacités d'exprimer le vide quotidien, le dilemme psychique de certaines heures. Mon désir de transformer le vide quotidien en langage est constamment mis en échec. Je refuse d'écrire la moindre pensée négative, alors qu'elle ne fait que ça dans le roman de manière superficielle, mais quand même. Ou alors il est impérieux de racheter la plus petite expression négative par une idée positive, analogue à l'expression du bien et de l'avenir heureux. C'est même une question de moralité, de bienséance et de savoir-vivre que de modifier la négativité par l'espoir retrouvé. J'ai le devoir d'incarner l'espérance. Alors que c'est un devoir qu'elle va refuser d'une certaine manière, puis on pourra en reparler, parce que le roman se conclut justement sur cette idée d'espérance.
Bien intéressant ce que vous avez choisi de lire. Elle est catholique, mm-hmm. catholique jusqu'à l'os. Elle fait ses actes de contrition tous les soirs. Et elle se raconte, comme elle le dit, elle se raconte ses défauts, les qualités à acquérir, les erreurs qu'elle a faites, etc. Alors, quand on est catholique, on doit espérer. On doit espérer, ça fait partie de la religion. Et aussi, on transpose ça en bonne catholique dans la vie qu'on vit, c'est-à-dire qu'on ne doit pas exprimer des choses tristes. Donc, on ne doit pas exprimer des doutes, mais encore moins dire ça s'est mal passé ou quelque chose comme ça. On doit toujours viser à dire. Nous sommes allés nous baigner. Ah, c'était fantastique. Il y avait un trou d'eau, mais non, faut pas dire que c'était un lac artificiel, nauséabond là. Non, c'était, on a mis nos maillots de bain, on a pris des photos. Tout le monde a l'air heureux. Bon, on a droit d'exprimer que cela. C'est de cela dont elle se rend compte dans sa première façon d'aborder l'écriture, qui est elle a il y a quelqu'un il y a une une adolescente, mais qui a quand même un an et demi plus âgé qu'elle. Donc, pour elle, c'est très valorisant d'être avec une grande. Et puis, donc, elle doit lui écrire. Mais les choses qui lui viennent en tête sont des choses... Il faudrait qu'elle dise qu'il ne se passe rien durant l'été. Mais comment dire le rien? Il n'est pas Beckett qui veut à 14 ans, hein? Bon... C'est ça. Et c'est ça qu'il faudrait. C'est ça. Elle est habitée par un monde comme celui de Beckett. Mais là, ça, c'est une partie de son monde. Mais en fait, on lui a appris que la politesse, c'est de sourire. Par exemple, une preuve de ça, c'est que quand la famille va au premier de l'an, alors la mère, qui les a tous habillés beaux et tout ça, là, la mère les sermonne. On ne demande pas deux fois la nourriture, on ne pige pas dans les bonbons, on ne fait ci, on ne fait ça, tout ça, là. Ça n'arrête pas jusqu'au départ, là c'est le surmoi grandit plus grand que la personne. Et donc, c'est ce qu'on montre aux autres. Ce qu'on montre aux autres, finalement, c'est une façade, mais c'est plus... Ça fait partie de la belle éducation. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand Evelyne touche l'écriture, elle voit bien que ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Elle voit bien que ça ne fonctionne pas et elle va arriver à... Elle va faire une bêtise. Elle va raconter quelque chose, un désir qu'elle a, qui est absolument irréalisable. Bon, puis après ça, elle a dit, oh, j'ai menti. Et voilà. Mais parce qu'elle ne peut pas dire, elle ne peut pas exprimer, elle est bardée par cette religion.
La religion, mais aussi son éducation. Parce qu'une belle éducation, c'est d'une part l'éducation religieuse qui va demander, enseigner l'humilité, le dévouement. Mais c'est aussi, vous l'avez très bien cité, montré avec votre exemple, l'éducation familiale, particulièrement maternelle, qui, elle, va plutôt exiger le silence, la politesse. Donc, d'une part et d'autre, sa belle éducation, tant à l'école qu'à la maison, c'est une éducation où on lui apprend à être obéissante.
La passivité.
C'est ça.
La soumission, la passivité.
Tout à fait.
La passivité, la soumission...
Puis on se demande dans l'extrait dont vous venez de nous entretenir, parce que, le passage commence par « Selon la tradition familiale, nous sortons le soir du premier de l'an, etc. » Puis on a une énumération de demandes faites par la mère. « Il ne faut pas lui faire honte, savoir se tenir à table, manger tout ce qu'on nous sert, dire s'il vous plaît et merci. Les bonnes manières à table prouvent la belle éducation qu'elle nous donne. » C'est à se demander, quand vous mentionnez les leçons habituelles, est-ce que les leçons habituelles, c'est... Est-ce que la tradition familiale qui est mentionnée, est-ce que c'est la sortie du jour de l'an ou à la limite, est-ce que c'est les leçons habituelles? Est-ce que la tradition familiale, c'est pas, si on regarde plus largement que le jour de l'an, c'est l'obéissance puis justement la passivité qui est instaurée comme une tradition familiale de mère en fille?
Oui.
C'est quelque chose...
La passivité, la soumission.
Dont la figure de la serveuse va... qu'elle va parfaitement incarner. D'ailleurs, la serveuse, elle traverse... Dans Nécessairement putain, vous avez une partie du recueil qui s'intitule « À celles qui ont trop travaillé », qui est consacrée à la serveuse de bord. Une voix pour Odile, l'image sur la couverture du recueil, c'est une peinture de Manet, moi que je ne m'abuse. La serveuse derrière le bar. Puis là, on a une fille qui va travailler dans le bar de ses parents. J'ai une petite citation ici. « Il faut remplir les frigidaires de bouteilles... » Puis encore une fois, elle est désengagée par rapport à son propos. Elle ne se prononce jamais sur cette vie-là quotidienne. « Il faut remplir les frigidaires de bouteilles de bière, laver verre et cendrier derrière le comptoir, nettoyer les tables. Je pense que mon père a prémédité ses demandes, que ma mère est d'accord avec lui. Je sais que je suis face à l'autorité, qu'il m'est impossible de désobéir. Et un peu plus loin, j'apprends à servir les clients, bien entendu les parents aussi. » Puis on se rend compte à quel point, d'abord, elle, par le rôle de serveuse qu'elle va occuper dans le bar, à quel point ça représente le rôle pour lequel on la prépare dans la vie. qui est celui de... Là, elle sert... Là, c'est j'apprends à servir les clients pour apprendre éventuellement à servir un mari.
À servir mon mari, oui.
Exactement. Donc, cette belle éducation-là va même se traduire dans le, je mets en guillemets, métier, parce qu'évidemment, son métier, c'est d'étudier à ce moment-là. Mais le boulot qu'elle va exercer va encore une fois consister en une belle éducation. Puis évidemment, on se rend bien compte du choix de belle pour qualifier l'éducation qui tombe dans cette idée-là de positif. On peut pas parler négativement de quelque chose qui est désagréable. On va tout le temps essayer de le tourner. Mm-hmm. Et donc, au lieu de dire, je sais pas, une éducation noire ou accablante ou contraignante, on va dire une belle éducation. Parce que, puis la mère le dit, t'es chanceuse, là. Vous êtes chanceux, là, qu'on vous apprenne ça, là. Mais c'est une chance. Vous vous rendez pas compte que c'est une chance de vivre cette vie-là. Qui est encore une fois une manière de tourner l'obéissance, la nécessité d'obéir comme étant quelque chose pour lequel il n'y a aucune raison, contre laquelle il n'y a aucune raison de s'insurger.
Oui, c'est ça.
Mais...
c'est ça. Oui, que voulez-vous que je vous dise? C'est ça, c'est une éducation parfaitement autoritaire et comme ça.
Puis, ce qui me fascine dans la citation, c'est cette petite phrase qui dit « Je pense que mon père a prémédité ses demandes. » Et donc, la demande, puis là, on va basculer dans un autre registre qui est celui parce que la rencontre s'appelle France Théoret, une écrivaine, bien entendu, mais féministe aussi. Puis, cette mère-là qui va « Bon, je pense que mon père a prémédité ses demandes » à la page 92, que ma mère est d'accord avec lui. On se rend bien compte que le discours du père, la mère va le tenir également, puis que
oui, tout en ne s'entendant pas du tout avec le père.
Tout à fait.
Tout en étant constamment à couteau tiré avec lui, elle a les mêmes valeurs. Oui, parlons-en un petit peu peut-être du féminisme.
Tout à fait,
et
oui.
Aussi une chose qui m'est extrêmement importante, c'est-à-dire que je considère que je suis une écrivaine politisée. Et j'ai l'intention de le dire de plus en plus parce que ça ne se dit pas. Et qu'il faut dire ce qui ne se dit pas. Et je reviens, le féminisme a repris pour moi beaucoup de valeurs. Et je crois qu'il faudrait, je m'intéresse, d'ailleurs dans ce roman, si on remarque bien, il y a beaucoup de descriptions de lieux. Il y a beaucoup de descriptions de rues. Il y a beaucoup d'atmosphères. Il y a beaucoup de les institutions sont là. La famille, on en a assez à parler là. Il y a l'école comme institution. Il y a l'église un peu plus loin. Il y a la question de la spiritualité qui vient par... on peut pas dire que c'est une institution, la spiritualité, par exemple. En tout cas, c'est par rapport à l'église. Enfin, il y a plusieurs choses. Et c'est ce monde... Ce monde extérieur à soi, enfin, on a ce monde extérieur à soi, ce qu'on appelle souvent la société. Moi, j'ai décidé de parler davantage, plutôt que de parler de revendications sociales, mais de revendications politiques. Hannah Arendt disait que ce qu'elle reprochait aux féministes, c'est de ne pas être politique, de s'en tenir aux revendications sociales. Et on en a fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup dans la rue, et disons que si je m'éloigne du roman, je vais vous dire, je vais simplement revenir sur une seule parenthèse, c'est que dans le roman, j'ai essayé de mettre les choses en micro, et non pas les choses, les scènes sont, c'est des éléments micro. En fait, des petits éléments, mais qui sont vraiment des reflets de grands ensembles, des gens, des préjugés qu'on pouvait avoir, des limites qu'on pouvait toucher constamment, comme par exemple cette limite du langage. Quand on n'a que des choses vernissées à dire, on ne peut dire que des clichés. Que dire, on ne peut dire, on pense par cliché, on dit des clichés, on est dans un monde unique, et puis voilà. Mais le féminisme aussi, ça peut être des analyses aussi fines que cela, mais moi, je crois que je veux tenter de dire des choses sur sur ce monde globalement. Et ça m'intéresse énormément de parler du Québec. De parler du Québec, mais pas seulement du Québec passé, du Québec de maintenant. Mais je trouve qu'il reste beaucoup du Québec à passer dans le Québec de maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup encore de ces non-manières de recevoir les gens, de ces façons, de ces esquives devant ce qui est noir. Voici. Ça, c'est une autre aussi contradiction pour moi. C'est que je suis une féministe qui n'est pas une grande optimiste. Et je ne vois pas le féminisme comme un lendemain qui chante ou qu'une aube à venir ou qu'une transformation globale. Je n'ai jamais, mais jamais écrit de mal, mais pas une seule ligne. Et vous essayerez de la trouver, cette ligne, si vous voulez me prendre en défaut. Contre, par exemple, les féministes qui aimaient tellement l'utopie. Hein? Alors, je n'ai jamais... Je crois qu'il y a eu des choses intéressantes du côté de l'utopie. Pour le dire, par exemple, rapidement, il y a des femmes qui voyaient que dans l'an 2000, on allait faire on allait lutter contre l'homophobie. Mais à cette époque-là, en 80, tout était encrouté, etc. Mais elles voyaient par leur préscience, leur savoir, leur façon de voir, leur enthousiasme. Je n'ai même pas été une féministe enthousiaste. Je suis une féministe intégralement noire, pessimiste, noire. Enfin, peut-être que pessimiste, je n'aime pas. Je n'aime pas pessimiste parce que ça s'oppose à optimiste. Mais je crois que pour moi, ce qui est très important, ce qui est très urgent, c'est qu'on analyse la négativité. Et je crois que ce qui a beaucoup de difficultés à passer dans mes livres, et je vois par les critiques qu'on me fait, par les critiques que je reçois, dire des choses négatives, dire des choses noires au Québec, dire des choses contre les préjugés, dire des choses de cet ordre-là qui sont décapantes, décapées, ça ne passe pas auprès de certaines personnes. Il faut toujours qu'il y ait une sorte de résurrection, de lendemain qui chante, de choses merveilleuses qui vont arriver. Et quelque chose va arriver, un sauveur ou une sauveuse va nous tomber dessus. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les choses qui sont à dire sont des choses qui nous touchent. Et arriver à parler comme on le désire, c'est vraiment quelque chose de terrible, parce qu'il faut passer à travers la non-mémoire, à travers les préjugés, à travers aussi la haine du savoir. Et je sais de quoi je parle, car je parle de haine du savoir, haine des livres. Les intellectuels sont des snobs. Non, les intellectuels ne sont pas des snobs. Les intellectuels sont des gens sérieux qui ne rient jamais. Oui, les intellectuels, je suis bien avec eux. Quand ils savent rire, ils savent nuancer, ils sont des feux d'artifice par moment. Et moi, j'ai besoin de ces choses qui sont multiples et des choses qui n'étaient pas là. Et je suis allée à la recherche de ça à travers mon écriture et à travers des auteurs qui en fait, nommer n'importe quel professeur de désespoir que nomme Nancy Houston, je les aime tous. Ça, c'est clair? C'est clair. Et on va toujours accorder ici la première page à Nancy Houston. Et on va toujours, ça va être le devoir, ça va être le téléjournal, ça va être ci, ça va être ça. On va toujours avoir la première page. Mais moi, je suis cette sorte de féministe qui cherche, qui travaille, qui a le sens du symbolique, qui a le sens de la sémiologie. Et je viens du formalisme. Pour moi, le mot femme, ce n'est pas un contenu. C'était d'abord un signifiant qu'on devait enrichir comme terme, avoir d'autres sens de ce mot-là. Et c'est pour moi, ça, c'est une tâche politique. C'est une tâche politique et c'est une tâche... Et moi, ce que je n'aime pas, on refuse le politique parce qu'on a... Le politique, c'est pas quelque chose qui est en surplomb du travail. Le politique, c'est à l'intérieur de son travail. C'est dans ses visées. Et le politique aussi, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. Je m'excuse, j'ai l'impression d'être en train de donner un cours, mais il faut que je dise ces choses-là. Tellement on dit des conneries sur mes livres. Le politique, c'est de la connaissance. Et quand on refuse le politique, c'est de la paresse. Parce que là, il y a un énorme travail à faire, un énorme champ de pensée qui est là. Et je sais, et comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui est très lente dans l'écriture, alors ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et bon, ça prend aussi, des discussions. Heureusement, il y a des gens avec qui c'est possible autour de moi pour justement me faire entrer dans ces domaines-là. Et quand je dis, par exemple, que le féminisme, il devrait renaître, je vais vous dire sur une chose. Je vais vous donner juste un élément. Sur quoi il s'est cassé les dents, le féminisme, au début des années 80? Et pourquoi il est devenu faussement l'intimisme? Je ne vais pas rentrer là-dedans. En tous les cas, sur quoi le féminisme s'est cassé les dents? Il s'est cassé les dents exactement sur la pornographie. Il y avait, on en était à ces dossiers-là. On en était à dénoncer la pornographie. Alors là, il y a eu un refus de nous, là, assez terrible. Déjà, à cette époque, la pornographie faisait 10 milliards de dollars par année. Là, on a eu les Norman Mailer, qui vient de mourir, et plein d'autres écrivains américains qui sont mis à réciter, comme il l'a dit, là aussi, des poèmes pornographiques. Ça, c'est pas bien grave. Mais ce qui était plus grave, c'est qu'ils sont mis à associer les féministes aux gens de l'extrême droite. Ils ont dit que nous étions comme les religieux, alors que nous étions les premières à être sorties justement du carcan religieux. On nous a mis avec ces gens de la droite religieuse là, tels qu'on les connaît aux États-Unis et tout ça, et qui étaient déjà là dans les années 80. Et on nous a associés à ça. Et là vraiment, ça a démobilisé énormément notre... parce que, écoutez, essayez d'imaginer comment on puisse faire de nous une image plus accablante que de se faire lier à l'extrême droite et relier aux extrêmes religieux. Non, c'était pas prenable. Et il y a eu à ce moment-là un reflux. Et on sait ce qui est devenu la pornographie maintenant. On sait, là, aujourd'hui, c'est dans les 60 milliards par année. Donc, et le féminisme, c'est quelque chose de... Quand on a reçu beaucoup du féminisme par les droits et tout, mais c'est quelque chose de collectif. Et alors, s'il y a une lutte qui pourrait être prise, c'est évidemment de reconnecter avec la question de la lutte contre la porno, par exemple. Et je vous dis, s'il y a une renaissance du féminisme, les enjeux ne sont pas faciles. Ce sont des choses majeures. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aurait des écrivains pour trouver merveilleux que leur fils de 9 ans regarde dans Internet tout ce qu'il veut. Je pense pas.
Francéra, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on prenne les questions du public, parce que je suis certaine... Oh, au contraire, je suis certaine qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont envie de réagir à ce que vous avez dit. S'il vous plaît, excusez-vous pas, ou bien au contraire. S'il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser des questions, ne serait-ce que sur l'intimisme, sur lequel vous n'aviez pas envie d'embarquer, mais qui serait peut-être l'occasion. Il y a un micro derrière. Si vous voulez juste vous lever pour poser la question dans le micro, réagir à ce que vous venez de dire ou à ce dont on discute depuis le début, quelqu'un veut se lancer? Patrick Poirier, donc, au micro.
Je veux d'abord vous remercier, vous êtes d'une générosité exemplaire.
Hallucinante.
Oui. Je ne thésaurise pas le savoir.
C'est d'une grande générosité, je vous remercie.
Merci. Oh, ouais. Un applaudissement.
Je tenais aussi à dire que vous êtes merveilleusement noire.
Ça vient d'un homme qui s'habille en noir, comme vous pouvez voir, et qui s'est apprécié.
Et ce que je retiens de votre discours, de votre intervention aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas contre l'espérance. Je retiens pas que vous êtes contre l'espérance, et vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que vous êtes contre ce devoir d'espérance. Et cette nuance-là, elle est tellement importante à mes yeux. Cette obligation d'espérer qu'on nous a légué, cet héritage, cette contrition, ce devoir d'arc-en-ciel après les pluies. Et je vous suis, Mila, tout à fait dans ce chemin-là, mais j'aimerais vous entendre beaucoup là-dessus, sur cette critique du devoir, de ce dû.
vous apportez une belle nuance. Je crois que je vais devoir y réfléchir. J'aime beaucoup cette nuance. Oui, mais effectivement, c'était partout. C'était partout et c'était aussi, par exemple, les gens s'en souviennent pas beaucoup, mais dans les 10 000, staliniens et maoïstes qu'on a eus ici, bon, c'était le renforcement de ce devoir d'espérance. Mais encore, il faut toujours que ça finisse bien. Il faut toujours, même, je dirais que c'est même, disons, banalisons-le, c'est même typiquement américain. Il faut un happy end, c'est beaucoup mieux.
Mais d'ailleurs, dans votre roman, vous terminez la toute dernière phrase. J'aimerais bien qu'on la lise et que vous en parliez parce que ça reprend tout à fait ce que disait Patrick, dans la mesure où c'est un refus du happy ending, encore une fois, mais la dernière phrase de votre roman se lit comme suit. « L'espérance est un cri, une blessure, un pacte pris à la lettre, une ligne mélodique, une violente constante devant le désir. »
Oui, parce que le désir, c'est un projet. C'est l'assumation de ce qu'on prétend qu'on va faire. Et alors, si l'espérance... L'espérance, c'est le parcours qui compte, c'est pas le... L'espérance, c'est la fin, c'est la fin heureuse.
C'est de la passivité aussi, il me semble. Dans la mesure où le désir demande une action, demande un engagement de la part du sujet qui désire quelque chose, alors que l'espérance, on attend...
C'est très lourd, l'assumation de son désir. Mm-hmm. C'est très, très lourd. D'après le roman. C'est très, très lourd.
Est-ce qu'on prend une dernière question? Quelqu'un veut intervenir? Bon, mais dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, on peut peut-être mettre fin à la rencontre, mais... pour les timides, évidemment, avec sa très grande générosité, ceux et celles qui veulent venir discuter peut-être un peu plus en privé et sans micro avec France Théoret, vous êtes les bienvenus. France Théoret, merci beaucoup, en effet, pour votre disponibilité, votre générosité, votre enthousiasme et votre désir, justement.
Merci de votre écoute.
Merci beaucoup.